France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter « La confession d'un enfant du siècle » d'Alfred de Musset. Adaptation Nicolas Lormeau, musique de Bertrand Maillot.
J'ai à raconter à quelle occasion je fus pris d'abord de la maladie du siècle. J'étais à table à un grand souper après une mascarade. Autour de moi, mes amis, richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie. À droite et à gauche, des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs. Au-dessus de ma tête, un orchestre bruyant, et en face de moi, ma maîtresse, créature superbe que j'idolâtrais. J'avais alors 19 ans, je n'avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie. J'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines. C'était un de ces moments d'ivresse où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière alors apparaît comme une pierre précieuse à mille facettes sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasse très volontiers tout ce qu'on voit sourire et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba, je me baissais pour la ramasser, et ne la trouvant pas d'abord, je soulevais la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et ils les resserraient doucement de temps en temps. Je me relevais parfaitement calme, demandais une autre fourchette, et continuais à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient de leur côté très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes posés sur la table et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de langueur. Je les observais tout autant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes ni sur leurs visages rien qui pouvait les trahir. À la fin, lorsqu'on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre et étant baissé de nouveau, je les retrouvais dans la même position, étroitement liés l'un à l'autre. Je rentrais chez moi tranquillement, ne sentant rien, n'éprouvant rien, et comme privé de réflexion. Je commençais à me déshabiller, me mis au lit, mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet que les esprits de la vengeance me saisirent alors avec une telle force que je me redressais tout à coup contre la muraille comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je sortis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passai ainsi près d'une heure, complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j'éprouvais. La fièvre me prit. C'est alors seulement que je commençais à verser des larmes. Un de mes amis déjeunait, vint me voir, je lui racontais tout ce qui s'était passé. Il m'écouta dans un grand silence, et puis se promena à grands pas dans la pièce comme un homme irrésolu. Enfin, il s'arrêta devant moi et partit d'un grand éclat de rire. « Est-ce que c'est votre première maîtresse ?» me dit-il. « Non, lui répondis-je, c'est la dernière. « Mon cher Octave, vous êtes bien jeune. Vous voudriez avoir bien des choses et de belles choses, mais qui n'existent pas. Octave, vous croyez à une singulière sorte d'amour, vous croyez à l'amour tel que les romanciers et les poètes le représentent. Vous croyez en un mot à ce qui se dit ici-bas et non à ce qui s'y fait. Vouloir chercher dans la vie réelle des amours pareils, éternels et absolus, c'est la même chose que de chercher sur la place publique des femmes aussi belles que la Vénus, ou de vouloir que les rossignols chantent les symphonies de Beethoven. Prenez de l'amour ce qu'un homme sobre prend de vin. Ne devenez pas un ivrogne. Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais si elle ne l'est pas et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu'elle est jeune et belle. Et si elle est agréable et spirituelle, aimez-la encore. Et si elle n'est rien de tout cela, mais qu'elle vous aime seulement, aimez-la encore une fois. On n'est pas aimé tous les soirs. Et, mon cher Octave, n'accusez pas les femmes d'être ce qu'elles sont. C'est nous qui les avons faites ainsi. La jeune vierge, faite pour courir au soleil, pour admirer les lutteurs nus comme à Lacédémone, pour choisir, pour aimer, on l'enferme. On la verrouille. Cependant, elle cache un roman sous son crucifix. Pâle et oisive, elle se corrompt devant son miroir. Elle flétrit dans le silence des nuits cette beauté qui l'étouffe et qui a besoin du grand air. Et puis tout à coup, on la tire de là, ne sachant rien, n'aimant rien, désirant tout. Une vieille l'endoctrine. On lui chuchote un mot obscène à l'oreille et on la jette dans le lit d'un inconnu qui la viole. Voilà le mariage, c'est-à-dire la famille civilisée. Et maintenant, voilà cette pauvre fille qui fait un enfant. Voilà ses cheveux, son beau sein, son corps qui se flétrissent. Voilà qu'elle a perdu la beauté des amantes et qu'elle n'a point aimé. Voilà qu'elle a conçu, qu'elle a enfanté. Et elle se demande pourquoi on lui apporte un enfant et on lui dit « Vous êtes mère ». Elle répond « Mais je ne suis pas mère. Qu'on donne cet enfant à une femme qui est du lait. Il n'y en a pas dans mes mamelles. Ce n'est pas ainsi que le lait vient aux femmes. » Son mari lui répond qu'elle a raison, que son enfant le dégoûterait d'elle. On vient, on la part, on met une dentelle de maline sur son lit ensanglanté, on la soigne, on la guérit du mal de la maternité. Un mois après, la voilà au bal, aux Tuileries, à l'opéra. Son enfant est à l'orphelinat, son mari au mauvais lieu. Et maintenant, 10 jeunes gens lui parlent d'amour, de dévouement, de sympathie, d'éternels embrassements, de tout ce qu'elle a dans le cœur. Elle en prend un, l'attire sur sa poitrine, il la déshonore, se retourne et s'en va à la bourse. Et maintenant, la voilà lancée. Elle pleure une nuit et trouve que les larmes lui rougissent les yeux. Elle prend un consolateur, de la perte duquel un autre la console, ainsi jusqu'à 30 ans et plus. C'est alors que blasée et entraînée, n'ayant plus rien d'humain, pas même le dégoût, elle rencontre un soir un bel adolescent, aux cheveux noirs, à l'œil ardent, au cœur palpitant d'espérance. Elle reconnaît sa jeunesse, elle se souvient de ce qu'elle a souffert, et lui rendant les leçons de sa vie, elle lui apprend à ne jamais aimer. Aimer pour les femmes, c'est sortir voilé, écrire avec un mystère, comploter et railler, marcher en tremblant sur la pointe des pieds, faire des yeux languissants, pousser de chastes soupirs dans une robe empesée et guindée, et puis tirer les verrous pour la jeter par-dessus sa tête, humilier une rivale, tromper un mari, désoler ses amants. Aimer pour nos femmes, c'est jouer à mentir comme les enfants jouent à se cacher. Voilà, mon cher Octave, la femme telle que nous l'avons faite. Voilà nos maîtresses. Mais quoi? Ce sont des femmes, et il y a avec elles de bons moments. Ainsi parlait Desgenais d'une colère froide au milieu du silence de la nuit. La première chose que je fis dès que je pus me lever et sortir de la chambre fut de courir chez ma maîtresse. Je la trouvai seule, assise sur une chaise dans un coin de sa chambre, le visage abattu et dans le plus grand désordre. Je l'accablais des plus violents reproches, j'étais ivre de désespoir, je criais à faire retentir toute la maison. « Ah, infidèle, ah, malheureuse, que t'ai-je fait? Tu sais que j'en mourrai, cela te fait-il plaisir ?» Elle se jeta à mon cou, me dit qu'elle avait été séduite, entraînée, que mon rival l'avait enivrée dans ce fatal souper, mais qu'elle n'avait jamais été à lui, qu'elle s'était abandonnée à un moment d'oubli, qu'elle avait commis une faute et non pas un crime, enfin, qu'elle voyait bien tout le mal qu'elle m'avait fait, mais que si je ne la reprenais pas, elle en mourrait aussi. Tout ce que le repentir sincère a de larmes, tout ce que le désespoir a d'éloquence, elle l'épuisa pour me consoler. Pâle et égarée, à genoux au milieu de la chambre, sa robe entr'ouverte, ses longs cheveux épars sur ses épaules, jamais je ne l'avais vue si belle. Et je frémissais d'horreur pendant que tous mes sens se soulevaient à ce spectacle. Je sortis brisé, n'y voyant plus et pouvant à peine me soutenir. Je ne voulais plus jamais la revoir. Et pourtant, au bout d'un quart d'heure, j'y retournais. Je ne sais quelle force désespérée m'y poussait. J'avais comme une sourde envie de la posséder encore une fois, de boire sur son corps magnifique toutes ses larmes amères et de nous tuer après tous les deux. Enfin, je l'abhorrais et je l'idolâtrais. Je sentais que son amour était ma perte, mais que vivre sans elle était impossible. Je montais chez elle comme un éclair, je ne parlais à aucun domestique connaissant la maison. J'entrais tout droit et je poussais la porte de sa chambre. Je la trouvais assise devant sa toilette, immobile et couverte de pierreries. Sa femme de chambre la coiffait. Elle tenait à la main un morceau de crêpe rouge qu'elle passait légèrement sur ses joues. Je crus faire un rêve. Il me semblait impossible que ce fût là cette même femme que je venais de voir il y avait un quart d'heure noyée de douleur et étendue sur le carreau. Je restais comme une statue. Elle, entendant sa porte s'ouvrir, tourna la tête en souriant. « Est-ce vous, mon ami? Vous êtes en avance ?» Elle allait au bal et attendait mon rival qui devait l'y conduire. Elle me reconnut, serra les lèvres et fronça les sourcils. Je fis un pas pour sortir. Je regardais sa nuque, lisse et parfumée, où ses cheveux étaient noués et sur laquelle étincelait un peigne de diamant. Cette nuque, siège de la force vitale, était plus noir que l'enfer. Deux tresses luisantes y étaient tordues, et de légers épis d'argent se balançaient au-dessus. Ses épaules et son cou, plus blancs que le lait, en faisaient ressortir le duvet rude et abondant. Il y avait dans cette crinière retroussée je ne sais quoi d'impudemment beau qui semblait me railler du désordre où je l'avais vu quelque instant auparavant. J'avançai d'un coup et frappai cette nuque d'un revers de mon poing fermé. Ma maîtresse ne poussa pas un cri, elle tomba sur ses mains, après quoi je sortis précipitamment et je sentis combien l'indignation qui se soulage peut nous donner de joie. Quant à celui qui s'étonnera qu'à partir de ce jour j'ai changé complètement ma vie, il ne connaît pas le cœur de l'homme, et il ne sait pas qu'on peut hésiter 20 ans à faire un pas, mais non reculer quand on l'a fait. Tout le monde le fait et s'en cache. Fais-le et ne t'en cache pas. L'apprentissage de la débauche ressemble à un vertige. Lancé dans cette vie de débauché par les circonstances que j'ai dites, j'ai à raconter maintenant ce que j'y ai vu. La première fois que j'ai vu de près une de ces assemblées fameuses qu'on appelle les bals masqués des théâtres, j'avais entendu parler des débauches de la Régence et d'une reine de France déguisée en marchande de violettes. Je m'attendais à du libertinage. Mais en vérité, il n'y en a point là. Ce n'est pas du libertinage que de la suie, des coups, et les filles ivres mortes sur des bouteilles cassées. La première fois que j'ai vu des débauches de table, j'avais entendu parler des soupers du mage Héliogabal, et d'un philosophe de la Grèce qui avait fait des plaisirs des sens, une espèce de religion de la nature. Je m'attendais à quelque chose comme l'oubli, sinon comme de la joie. Je trouvais là ce qu'il y a de pire au monde. L'ennui tâchant de vivre, et des Anglais qui se disaient « Je fais ceci ou cela, donc je m'amuse, j'ai payé tant de pièces d'or, donc je ressens tant de plaisir, et ils usent leur vie sur cette meule. » La première fois que j'ai vu des courtisanes, j'avais entendu parler d'Aspasie, qui s'asseyait sur Alcibiade en discutant avec Socrate. Je m'attendais à quelque chose de dégourdi et d'insolent, mais à quelque chose de gai, de brave et de vivace, à quelque chose comme le pétillement du vin de champagne. Je trouvais une bouche béante, un œil fixe et des mains crochues. La première fois que je suis entré au jeu, j'avais entendu parler de flots d'or, de fortune faite en un quart d'heure et d'un seigneur de la cour de Henri IV qui gagna sur une carte les 100 000 écus que lui coûtait son habit. Je trouvais un vestiaire où des ouvriers qui n'ont qu'une chemise louent un habit à 20 sous la soirée, des gendarmes assis à la porte et des affamés jouant un morceau de pain contre un coup de pistolet. La première fois que j'ai vu une de ces assemblées ouvertes à quelques-unes des 30 000 femmes qui ont à Paris permission de se vendre, j'avais entendu parler des Saturnales de tout temps et de toutes les orgies possibles, depuis Babylone jusqu'à Rome. Et j'avais toujours vu écrit au seuil de la porte un seul mot, « plaisir ». Je n'ai trouvé de ce temps-ci qu'un seul mot, « prostitution ». Mais je l'y ai toujours vu gravé, ineffaçable, non pas dans ce fier métal qui porte la couleur du soleil, mais dans le plus pâle de tous, celui que la froide lumière de la nuit semble avoir peint de ses rayons blafards. L'argent. Ce qu'il y avait de bien en cela, supposé qu'il pût y en avoir quelqu'un, c'est que ces faux plaisirs étaient des semences de douleur et d'amertume qui me fatiguaient à n'en pouvoir plus. À Paris, au mois de décembre, je passais l'hiver en partie de plaisir, en mascarade, en souper, quittant rarement mon ami Déjeuner, qui était enchanté de moi. Nous nous jetions sur une table, buvant à en perdre la tête, et puis vers minuit, nous prenions des chevaux de poste pour aller déjeuner à 10 ou 12 lieues dans la campagne, en revenant au bain, de là à table, de là au jeu, de là au lit. Mon parti était pris de n'aimer plus jamais. Le monde n'est que tourbillon, et il n'y a aucun rapport entre ces tourbillons. Tout s'en va par bandes, comme des volées d'oiseaux. Nous étions donc, moi et mes compagnons, une volée d'oiseaux, et nous restâmes ensemble jusqu'au printemps, tantôt jouant, tantôt courant. Mais me direz-vous, quelle femme aviez-vous? Je ne vois pas là la débauche en personne. Oh, créature qui portiez le nom de femme et qui avait passé comme des rêves dans une vie qui n'était elle-même qu'un rêve, que dirais-je de vous? Là où il n'y a jamais eu l'ombre d'une espérance, est-ce qu'il y aurait quelque souvenir? Où vous trouverais-je pour cela? Qu'y a-t-il de plus muet dans la mémoire humaine? Qu'y a-t-il de plus oublié que vous? Pour parler des femmes que nous fréquentions, j'en citerai une. Il était environ 10 heures du soir, lorsqu'après une journée entière de bruit et de fatigue, nous nous rendîmes chez mon ami Desgenais, qui nous avait précédés de quelques heures pour faire les préparatifs de la fête qu'il voulait donner ce soir-là. L'orchestre était déjà en train et le salon rempli à notre arrivée. À peine entré, je me lançai dans le tourbillon de la valse. C'est véritablement posséder en quelque sorte une femme que de la tenir une demi-heure dans ses bras et de l'entraîner ainsi, palpitante malgré elle et non sans quelque risque, de sorte qu'on ne saurait dire si on la protège ou si on la force. Quelques-unes se livrent alors avec une si voluptueuse pudeur, avec un si doux et si pur abandon qu'on ne sait si ce qu'on ressent près d'elle est du désir ou de la crainte, et si en les serrant sur son cœur on se pâmerait ou on les briserait comme du roseau. L'Allemagne où l'on a inventé cette danse est à coup sûr un pays où l'on aime. Je tenais dans mes bras une superbe danseuse d'un théâtre d'Italie venue à Paris pour le carnaval. Elle était avec une robe de peau de panthère. Jamais je n'ai rien vu d'aussi languissant que cette créature. Elle était grande et mince, et tout en valsant avec une rapidité extrême, elle avait l'air de se traîner. Sur son sein était un bouquet énorme dont les parfums m'enivraient malgré moi. À chaque mouvement de mon bras, je la sentais plier mollement comme une liane des Indes, pleine d'une mollesse si douce et si sympathique qu'elle m'entourait comme d'un voile de soie embaumée. À chaque tour, on entendait à peine un léger froissement de son collier sur sa ceinture de métal. Elle se mouvait si divinement que je croyais voir un bel astre, et tout cela avec un sourire comme une fée qui va s'envoler. La musique de la valse tendre et voluptueuse avait l'air de lui sortir des lèvres, tandis que sa tête chargée d'une forêt de cheveux noirs tressés en nattes penchait en arrière, comme si son cou eût été trop faible pour la porter. Lorsque la valse fut finie, je me jetai sur une chaise au fond d'un boudoir. J'étais hors de moi. Mon cœur battait. « Oh Dieu !» m'écriai-je. « Oh monstre superbe !»« Oh beau reptile !»« Comme tu enlaces !»« Comme tu ondoies douce couleuvre avec ta peau souple et tachetée !»« Les cœurs des hommes sont à toi !»« Tu sais bien que tu perds !» Tu sais bien que tu noies. Tu sais qu'on va souffrir lorsqu'on t'aura touché. Tu sais qu'on meurt de tes sourires, du parfum de tes fleurs, du contact de tes voluptés. Voilà pourquoi tu te livres avec tant de mollesse. Voilà pourquoi ton sourire est si doux, tes fleurs si fraîches. Voilà pourquoi tu poses doucement ton bras sur nos épaules. Ô Dieu, que veux-tu donc de nous ? Mais quel est l'homme qui croit avoir vécu s'il nie la puissance des femmes? S'il n'a jamais quitté une belle danseuse avec les mains tremblantes? Ce n'était pourtant pas de l'amour que je ressentais. Et je ne puis dire autre chose sinon que c'était de la soif. La vue de ce bel animal en avait fait rugir un autre dans mes entrailles. Je sentais bien que je n'aurais pas dit à cette femme que je l'aimais, ni même qu'elle me plaisait, ni même qu'elle était belle. Il n'y avait sur mes lèvres que l'envie de baiser les siennes, de lui dire « Ces deux bras nonchalants, faites-moi une ceinture, cette tête penchée, appuie-la sur moi, ce doux sourire, colle-le sur ma bouche. » Mon corps aimait le sien. J'étais pris de beauté comme on est pris de vin. Mais au même instant, un domestique entra précipitamment dans la pièce. Il me prit la main, m'emmena doucement à l'écart et me dit tout bas « Monsieur, votre père se meurt. Il vient d'être pris d'une attaque d'apoplexie et les médecins désespèrent de lui. » Mon père demeurait à la campagne. Lorsque j'arrivais, je trouvais le médecin sur la porte. Vous venez trop tard, votre père aurait voulu vous voir une dernière fois. J'entrai et vis mon père mort. Je m'approchai et soulevai doucement le linceul qui couvrait déjà le visage. Que vouliez-vous me dire, mon père? Quelle a été votre dernière pensée en cherchant des yeux votre enfant? Mon père écrivait un journal, ce journal était sur la table et je vis qu'il était ouvert. Je m'approchai, je m'agenouillai. Sur la page ouverte étaient ces deux seuls mots. Adieu, mon fils, je t'aime et je me meurs. Je ne versai pas une larme. Pas un sanglot ne sortit de mes lèvres. Ma gorge se serrait et ma bouche était comme scellée. Je regardai mon père sans bouger. Il connaissait ma vie. Et mes désordres lui avaient donné plus d'une fois des motifs de réprimande ou de plainte. Je m'attendais qu'avant de mourir, il avait voulu me voir pour tenter, une fois encore, de me détourner de la voie sur laquelle j'étais engagé. Mais la mort était venue trop vite. Il avait d'un coup senti qu'il n'avait plus qu'un mot à dire, et il avait dit qu'il m'aimait. Il avait été enterré dans le cimetière du village, tous les jours j'y allais, et je passais une partie de la journée assis sur un petit banc placé dans l'intérieur même du tombeau, le reste du temps je vivais seul dans la maison même où il était mort, et je n'avais avec moi qu'un seul domestique. Pendant les premiers mois que je demeurais à cette campagne, il ne me vint à l'esprit de songer ni au passé ni à l'avenir. Il ne me semblait pas que ce fût moi qui eusse vécu jusqu'alors. Ce que je ressentais n'était pas du désespoir et ne ressemblait en rien à ces douleurs furieuses que j'avais senties auparavant. Ce n'était que langueur dans toutes les actions, comme une fatigue et une indifférence de tout, mais avec une amertume poignante qui me rongeait intérieurement. Je reçus de Paris plusieurs lettres et je fis à toutes la réponse que je voulais passer l'été seul à la campagne comme mon père avait coutume de le faire. Un soir, renfermé dans ma solitude, alors que je me promenais dans une allée de tilleuls située à l'entrée du village, je vis sortir une jeune femme d'une maison isolée. Elle était mise très simplement et voilée, de sorte que je ne pouvais voir son visage, mais sa taille et sa démarche me parurent si charmantes que je la suivis des yeux quelque temps. Je rentrais chez moi, je demandais qui elle était à mon domestique, il la connaissait, elle s'appelait Brigitte Pierson. Je sortis immédiatement et, comme par distraction, regardant le sentier que Madame Pierson avait pris pour s'en aller, je le suivis tout en rêvant, si bien que je m'enfonçais fort en avant dans la montagne. Il était passé 11 heures du soir lorsque je songeais à revenir. Comme j'avais beaucoup marché, je me dirigeais vers une ferme isolée que j'aperçus au loin. En même temps, de grosses gouttes de pluie commençaient à tomber et annonçaient un orage que je voulais laisser passer. Arrivé près de la ferme, je vis qu'un grand feu était allumé dans la salle basse. Le fermier que je connaissais était assis près de son lit. Je frappai au carreau pour l'appeler et au même instant la porte s'ouvrit et je fus surpris de voir Madame Pierson que je reconnus aussitôt. Je m'attendais si peu à la trouver là qu'elle s'aperçut de mon étonnement. J'entrai dans la chambre et demandai la permission de me mettre à l'abri. Je n'imaginais pas ce qu'elle pouvait faire à une heure pareille dans une ferme presque perdue au milieu de la montagne, lorsqu'une voix plaintive me fit tourner la tête, et je vis que la femme du fermier était couchée avec la mort sur le visage. Madame Pierson s'était rassise en face du pauvre fermier qui paraissait accablé de douleur. Elle me fit signe de ne pas faire de bruit, la malade dormait. Cependant, Madame Pierson n'avait plus son voile. Je pouvais voir ses traits à découvert. Elle me parut pâle et un peu maigre. Ses cheveux étaient d'un blond cendré. Elle n'était pas régulièrement belle, qu'en dirais-je? Elle se tenait maintenant à côté du lit, tenant à la main une tasse et la présentant à la pauvre fermière qui s'était éveillée. Ses grands yeux noirs étaient fixés sur ceux de la malade, et ce pauvre être près de mourir la regardait aussi. Il y avait dans ce simple échange de charité et de reconnaissance une beauté qui ne se dit pas. Je regardais ce grabat, ses vitres inondées, les bouffées de la fumée épaisse renvoyée par la tempête, l'abattement stupide du fermier, la terreur superstitieuse des enfants, toute cette furie au dehors assiégeant une moribonde. Et au milieu de tout cela, je voyais cette femme, douce et pâle, allant et venant sur la pointe du pied, ne quittant pas d'une minute son bienfait patient, ne paraissant s'apercevoir de rien, ni de la tempête, ni de notre présence, ni de son courage, sinon qu'on avait besoin d'elle. J'étais immobile dans un coin, et je ne respirais qu'en tremblant. Qu'est-ce donc cette femme? D'où vient-elle? Depuis quand ici? Comment n'ai-je point entendu parler d'elle? Quoi, elle vient seule dans cette chaumière à cette heure? Voilà ce qu'elle faisait dans cette vallée pendant que je courais les tripots. Elle y est née, sans doute, et on l'y ensevelira dans un coin du cimetière, à côté de mon père bien-aimé. Ainsi mourra cette femme obscure dont personne ne parle et dont les enfants vous demandent « Est-ce que vous ne la connaissez pas ?» Je ne puis rendre ce que j'éprouvais. L'orage dura près de 2 heures. Et puis Madame Pierson souleva dans ses bras un des enfants de la fermière et lui dit dans un sourire « Embrasse ta mère, elle est sauvée. » Et puis elle demanda aux enfants de réveiller le garçon de ferme afin qu'il la reconduisît. Et puis je m'avançais et proposais mon escorte. Et je lui dis qu'il était inutile de réveiller le garçon puisque je revenais par le même chemin et qu'elle me ferait un honneur en acceptant. Et puis elle me demanda si je n'étais pas Octave de T. Et puis je lui répondis que oui et qu'elle se souvenait peut-être de mon père. Et puis il me parut singulier que cette demande la fît sourire. Et puis elle prit gaiement mon bras et nous partîmes. Nous marchions en silence. Le vent s'apaisait. Les arbres secouaient doucement la pluie sur leurs rameaux. Quelques éclairs lointains brillaient encore. Un parfum de verdure humide s'élevait dans l'air attiédi. Le ciel redevint bientôt pur et la lune éclaira la montagne. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la bizarrerie du hasard qui, en si peu d'heures, faisait ainsi me trouver, seul, la nuit, dans une campagne presque déserte, le compagnon de voyage d'une femme que je ne connaissais pas au lever du soleil. Elle avait accepté ma conduite sur le nom que je portais et marchait avec assurance, s'appuyant doucement sur mon bras. Il m'a semblé que cette confiance était bien hardie ou bien simple, et elle devait en effet être l'un et l'autre, car à chaque pas que nous faisions, je sentais mon cœur, à côté d'elle, devenir fier et innocent. Nous nous trouvions maintenant au sommet d'une petite colline qui descendait vers la vallée. Comme invitée par la pente rapide, Madame Pierson se mit à sauter légèrement. Sans savoir pourquoi, j'en fis autant qu'elle. Nous nous mîmes à courir sans nous lâcher le bras. L'herbe glissante nous entraînait. Ainsi, comme 2 oiseaux étourdis, en sautant et en riant, nous nous trouvâmes au bas de la montagne. « Madame, lui dis-je, que le nom de mon père qui m'a valu de vous raccompagner me permette de revenir vous voir, et je croirais que le bonheur ne m'a pas tout à fait oublié. » Elle me tendit la main, et je la touchai avec respect, n'osant la porter à mes lèvres. En rentrant chez moi, je me mis au lit. J'avais devant les yeux une petite maison blanche. Je me voyais déjà sortant après dîner, traversant le village et la promenade pour aller frapper à la grille. Oh, mon pauvre cœur, tu es jeune encore. Tu peux vivre. Tu peux aimer. Oh Dieu, de quoi se plaignent les hommes ? Qu'y a-t-il de plus doux que d'aimer ? Vivre, oui. Sentir fortement, profondément qu'on existe. Voilà le premier, le plus grand bienfait de l'amour. Il n'en faut pas douter, l'amour est un mystère inexplicable. Qu'est-ce que c'est, je vous le demande, qu'un lien plus dur, plus solide que le fer et qu'on ne peut ni voir ni toucher ? Qu'est-ce que c'est que de rencontrer une femme, de la regarder, de lui dire un mot et de ne plus jamais l'oublier. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Invoquez la raison, l'habitude, les sens, la tête, le cœur, et expliquez si vous pouvez. Vous ne trouverez que 2 corps, un là, et l'autre ici. Et entre eux, quoi ? L'air, l'espace, l'immensité. Plus de 3 mois s'étaient passés durant lesquels je l'avais vue presque tous les jours. J'aimais. J'avais plus d'une fois éprouvé la tentation de le lui avouer, mais je ne sais pourquoi, dès que j'y songeais, je me sentais une peur invincible. Et la seule idée d'un aveu était capable de me rendre triste au milieu des entretiens les plus doux. J'avais pensé quelquefois à lui écrire, mais je brûlais mes lettres dès qu'elles étaient à moitié. Parler d'amour, dit-on, c'est faire l'amour, et nous en parlions rarement. Toutes les fois qu'il m'arrivait d'aborder ce sujet, en passant, Madame Pierson répondait à peine et parlait d'autre chose. Je ne démêlais pas par quel motif, car ce n'était pas pruderie, mais il me semblait que son visage prenait dans ces occasions une légère teinte de sévérité, et même de souffrance. Comme je ne lui avais jamais fait de questions sur sa vie passée et que je ne voulais point lui en faire, je ne lui en demandais pas plus long. Ce soir-là, j'avais dîné chez elle. Je regardais toute cette tranquillité de son intérieur, je pensais à la vie calme que je menais, à mon bonheur nouveau depuis que je la connaissais. Et je me disais, pourquoi davantage? Cela ne te suffit-il pas? Qui sait, Dieu n'en a peut-être pas fait plus pour toi. Si je lui avouais que je l'aime, qu'en adviendrait-il? Elle me défendrait peut-être de la voir. La rendrais-je en le lui disant plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui? En serais-je plus heureux moi-même? Et comme je me faisais ces réflexions, la tristesse s'empara de moi. Je changeai de visage. Elle vint à moi. « Qu'avez-vous ? » dit-elle. Je me détournai. Je cherchais une excuse et n'en trouvais point. Je craignais de rencontrer ses regards. J'allais à la fenêtre. L'air était doux. La lune se levait au-dessus de l'allée des tilleuls, celle-là même où je l'avais vue pour la première fois. Elle se tenait derrière moi. J'oubliais jusqu'à sa présence même. Et un sanglot sortit de mon cœur. « Qu'est-ce donc ?» Je sortis sans répondre. Mais au lieu de rentrer chez moi, je commençais à errer comme un fou dans le village et dans le bois. Je m'asseyais là où je trouvais un banc et puis je me relevais précipitamment. Enfin, vers minuit, je revins vers la maison de Madame Pierson. Elle était à sa fenêtre. En la voyant, je me sentis trembler. Je voulus faire demi-tour, mais j'étais comme fasciné. Je vins lentement et tristement m'asseoir au-dessous d'elle. Je ne sais si elle me reconnut. Il y avait quelques instants que j'étais là lorsque je l'entendis. « Qui est là, à cette heure ? Est-ce vous, Octave ?»« Oui. » Et quelques instants après, je la vis paraître à la porte de l'escalier. Elle paraissait incertaine. Elle fit quelques pas vers moi, je tombai à genoux devant elle. Elle me dit alors, « Écoutez-moi, je le sais. Mais si c'est à ce point, Octave, il faut partir. Vous venez ici tous les jours. N'êtes-vous pas le bienvenu ? Que puis-je pour vous ? N'est-ce pas assez ? Mon amitié vous est acquise. J'aurais voulu que vous eussiez la force de me garder la vôtre plus longtemps. Il y a 3 mois que je vous vois, et je me suis aperçu que vous preniez pour moi ce qu'on appelle de l'amour. J'avais cru remarquer en vous la résolution de me le cacher et de vous vaincre. Octave, ce que vous croyez être de l'amour n'est que du désir. Aussi, je vous demande de ne plus me revoir. Ce qui s'est tissé entre nous ne peut être ni une seconde fois, ni s'oublier tout à fait. Je ne vous quitte pas sans tristesse. Je vais faire une absence de quelques mois. Si en revenant je ne vous trouve plus au pays, je serai sensible à cette dernière marque de l'amitié et de l'estime que vous m'avez témoignée.
La fièvre me retint une semaine au lit. Dès que je fus en état d'écrire, je répondis à Madame Pierson qu'elle serait obéie et que j'allais partir. Je l'écrivis de bonne foi et sans aucun dessein de la tromper, mais je fus bien loin de tenir ma promesse et au lieu d'aller à Paris, comme je l'avais annoncé, je m'en fus tout droit à la campagne où était partie Madame Pierson. Cependant, arrivé là-bas, je retardais indéfiniment le jour où je me permettrais de l'aller voir. Le temps s'écoulait, immobile. 2 mois passèrent ainsi. Et je demeurai des journées entières dans les bois. Le hasard l'y fit me rencontrer un jour dans un état à faire pitié et sut à peine si j'eus la force de lui dire bonjour. Mais elle, pourtant, après un long moment de silence, me dit « Je vais demain vers un village des environs et c'est trop loin pour aller à pied. Soyez ici à cheval de bon matin, si vous n'avez rien à faire, vous m'accompagnerez. » Je m'étais couché sur cette parole avec des transports de joie. Mais le lendemain, au contraire, en sortant de chez moi, j'éprouvais une tristesse invincible. Si elle est touchée, pourquoi tant de réserve? Si elle n'est que coquette, pourquoi tant de liberté? Lorsqu'elle monta à cheval, le cœur me battit quand je lui pris le pied. Je ne sais si c'était de désir ou de colère. Je ne lui parlai pas et pris de l'autre côté de la route. Tant que nous fûmes dans la plaine, elle parut tranquille et tournait seulement la tête de temps en temps pour voir si je la suivais. Mais lorsque nous entrâmes dans la forêt et que le pas de nos chevaux commença à résonner sous les sombres allées parmi les roches solitaires, je la vis trembler tout à coup. Elle s'arrêtait comme pour m'attendre car je me tenais un peu derrière elle et dès que je la rejoignais, elle prenait le galop. Bientôt nous arrivâmes sur le penchant de la montagne et il fallut aller au pas. Je vins me placer à côté d'elle, nous baissions tous les deux la tête. Il était temps, je lui pris la main et je lui dis alors « Ma chère Brigitte, depuis 2 mois que je suis venu ici, depuis 2 mois que je perds le repos, la force et l'espérance, vous ai-je dit un seul mot de ce fatal amour qui me dévore et qui me tue? Ne voyez-vous pas que je souffre et que mes nuits se passent à pleurer? N'avez-vous jamais rencontré quelque part dans ces forêts sinistres un malheureux assis les deux mains sur son front? N'avez-vous jamais trouvé de larmes sur ces bruyères? Regardez-moi, regardez ces montagnes. Vous souvenez-vous que je vous aime? Ils le savent, eux, ces témoins. Ces rochers, ces déserts le savent. Pourquoi m'amener devant eux? Ne suis-je pas assez misérable? Êtes-vous assez obéi? À quelle épreuve, à quelle torture suis-je soumis? Et pour quel crime? Si vous n'aimez pas, que faites-vous ici? Partons, ramenez-moi, retournons sur nos pas. Non, répondis-je, car j'ai parlé. Si nous retournons, je vous perds, je le sais. En rentrant chez vous, je sais d'avance ce que vous me direz. Vous avez voulu voir jusqu'où allait ma patience. Vous avez voulu mettre ma douleur au défi, peut-être pour avoir le droit de me chasser. Mais oui, vous étiez las de ce triste amant qui souffrait sans se plaindre et qui buvait avec résignation le calice amer de vos dédains. Vous saviez que seul avec vous, à l'aspect de ces bois, en face de ces solitudes où mon amour a commencé, je ne pourrais garder le silence. Vous avez voulu être offensé? Eh bien, madame, que je vous perde. J'ai assez pleuré, j'ai assez souffert, j'ai assez refoulé dans mon cœur l'amour insensé qui me dévore et qui me ronge. Vous avez eu assez de cruauté. » Et comme elle fit un mouvement pour sauter au bas de son cheval, je la pris dans mes bras et je collai mes lèvres sur les siennes. Mais au même instant, je la vis pâlir tout à coup. Ses yeux se fermèrent, Elle lâcha la bride qu'elle tenait et se laissa glisser à terre.
Dieu de bonté. Elle m'aime. Elle m'avait rendu mon baiser.
Elle était étendue sur l'herbe. Je la regardais, belle comme le jour. Ses longs cheveux tombant sur ses épaules. Ses mains irritées et tremblantes. Ses joues couvertes de rougeur, toutes brillantes de pourpre et de perles. Madame Pierson fixa sur moi ses yeux humides. J'y vis le bonheur de ma vie venir à moi dans un éclair. Elle était appuyée sur son coude, les yeux au ciel. Je m'étais penché au-dessus d'elle et je la regardais rêver. Une volupté mélancolique nous enivrait tous deux. Nous respirions ensemble les tièdes bouffées qui sortaient les charmilles. Je me souvins d'un certain jour que j'avais regardé avec désespoir le vide immense de ce beau ciel. Ce souvenir me fit tressaillir. Tout était si plein maintenant. Je sentais qu'un hymne de grâce s'élevait dans mon cœur et que notre amour montait à Dieu. J'entourais de mon bras la taille de ma chère maîtresse. Elle tourna doucement la tête. Ses yeux étaient noyés de larmes. Son corps plia comme un roseau. Ses lèvres entr'ouvertes tombèrent sur les miennes. Et l'univers fut oublié.
J'ai à raconter maintenant ce qui advint de mon amour et le changement qui se fit en moi. Quelle raison puis-je en donner? Aucune. Sinon que je raconte et que je puis dire, c'est la vérité. Ce soir-là, elle allait et elle venait, toute folle d'amour, toute vermeille de joie. Et elle ne savait imaginer quoi dire, quoi faire pour se donner, et se donner encore, elle, corps et âme, et tout ce qu'elle avait. Elle se mit au piano et me dit qu'elle allait me jouer un air de Stradella. J'aime par-dessus tout la musique sacrée, et ce morceau qu'elle m'avait déjà chanté m'avait paru très beau. « Eh bien, me dit-elle, quand elle eut terminé, vous vous y êtes bien trompé, cet air est de moi, et je vous en ai fait à croire. »
Il est de vous ?
Oui, et je vous ai conté qu'il était de Stradella pour voir ce que vous m'en diriez. Je ne joue jamais ma musique lorsqu'il m'arrive d'en composer, mais j'ai voulu faire un essai, et vous voyez qu'il a réussi puisque vous en étiez la dupe. Monstrueuse machine que l'homme. Qu'y avait-il de plus innocent? Un enfant un peu avisé eût imaginé cette ruse pour surprendre son précepteur. Elle riait de bon cœur en me le disant, tandis que je sentais comme un nuage qui fondait sur moi. Je changeai de visage. Qu'avez-vous, dit-elle, qui vous prend ? Rien. Jouez-moi cet air encore une fois. Tandis qu'elle jouait, je marchais à grands pas dans la pièce. Je passais ma main sur mon front comme pour en écarter un brouillard. Je haussais les épaules de ma propre démence, je frappais les pieds. Enfin, je vins m'asseoir à terre sur un coussin qui était tombé, elle vint à moi. Qu'est-ce donc ? Vraiment ? Vous mentez si bien ? Quoi ? Cet air est de vous ? Vous savez donc mentir si aisément ? Une inquiétude inexprimable se peignit sur ses traits. J'ai un livre, dit-elle, où j'écris mes pensées. Tout ce qui me passe par la tête. Et je veux vous en donner à lire ce que j'y ai écrit de vous dans les premiers jours que je vous ai vus. Je veux que vous le lisiez. N'en parlons plus. Que puis-je y trouver de si curieux ? Vos secrets sont à vous, ma chère. Plus je voulais lutter avec l'esprit des ténèbres qui me saisissait en ce moment, plus l'épaisse nuit redoublait dans ma tête. Cette confiance que j'avais eue de me livrer aveuglément à mon amour pour ma chère Brigitte m'avait paru si douce et si naturelle que je ne pouvais me résoudre à croire que tant de bonheur m'eût trompé. Était-il donc possible que ces 4 mois si heureux ne fussent déjà qu'un rêve ? Mais après tout, cette femme s'est donnée bien vite. N'y aurait-il point quelque mensonge dans cette intention de me fuir qu'elle m'avait d'abord témoigné et qu'une parole a fait évanouir ? N'aurais-je point par hasard affaire à une femme comme on en voit tant ? Oui, c'est ainsi qu'elles s'y prennent toutes. Elles feignent de reculer afin de se voir poursuivre. Les biches elles-mêmes en font autant, c'est un instinct de la femelle. Ne m'a-t-elle pas de son propre mouvement avoué son amour au moment même où je croyais qu'elle ne serait jamais à moi ? Dès le premier jour que je l'ai vue, n'a-t-elle pas accepté mon bras sans me connaître, avec une légèreté qui aurait dû me faire douter d'elle ? Oh mon Dieu, mais qui me sauvera ? Comment connaître la vérité ? Je sortis sans un mot. 2 jours passèrent ainsi, et parlait la jalousie. Ainsi, oubliant tant de larmes et tout ce que j'avais souffert, j'en venais, au bout de 2 jours, à m'inquiéter de ce que Brigitte m'avait cédé. Ainsi, comme tous ceux qui doutent, je mettais déjà de côté les sentiments dépensés pour discuter avec les faits, m'attacher à la lettre morte et disséquer ce que j'aimais. Après ces 2 jours, je revins vers la maison de Madame Pierson. Elle était à sa fenêtre, arrosant ses fleurs. « Elle est bien belle, me disais-je, bien dangereuse. » Si elle s'est trompée. Mais je la rouerai et lui tiendrai tête, et elle saura qui je suis. Ma chère, lui dis-je après un long moment de silence, je viens de donner conseil à un ami qui me consultait. Il m'écrit qu'il a découvert qu'une femme qui vient de se donner à lui a en même temps un autre amant et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai répondu par 2 questions. Est-elle jolie et l'aimez-vous ? Si vous l'aimez, oubliez-la. Si elle est jolie et que vous ne l'aimez pas, gardez-la pour votre plaisir. Il sera toujours temps de la quitter si vous n'avez affaire qu'à sa beauté et autant vaut celle-là qu'une autre. Brigitte Pierson respirait avec violence. Je l'avais blessée. Elle resta quelque temps pensive. Nous échangeâmes 2 ou 3 regards presque froids et presque ennemis. Et puis elle alla à son secrétaire qu'elle ouvrit, en tira un paquet de lettres entouré avec de la soie et le jeta devant moi sans dire un mot. Mais je ne regardais ni elle, ni ses lettres. Je venais de jeter une pierre dans un abîme et j'en écoutais retentir l'écho.
pour la première fois sur le visage de Brigitte avait paru l'orgueil offensé. Il n'y avait plus dans ses yeux ni inquiétude, ni pitié. Et comme je venais de me sentir tout autre que je n'avais jamais été, je venais aussi de voir en elle une femme qui m'était inconnue. « Lisez cela, » dit-elle enfin. « Lisez cela. Lisez cela !» répéta-t-elle d'un ton glacé. « Après, vous ouvrirez ces tiroirs et vous lirez tout ce qu'il y a ici de ma main ou de main étrangère. » Je vis l'effort qu'elle faisait pour parler. Elle était pâle comme la mort. Sa voix altérée sortait avec peine et sa gorge se contractait. Étrange chose que l'homme qui souffre veuille faire souffrir ceux qu'il aime. Qu'y a-t-il de plus cruel pour la femme que de voir un homme qui sort de ses bras tourner en dérision par une bizarrerie sans excuse ce que les nuits heureuses ont fait de plus sacré et de plus mystérieux. Elle ne me fuyait pourtant pas. Elle restait auprès de moi, tandis que dans mon humeur féroce, j'insultais ainsi à l'amour, laissant grommeler ma démence sur une bouche encore humide de ses baisers. Et pourtant notre querelle avait été pour ainsi dire moins triste que notre réconciliation. Celle-ci fut accompagnée de la part de Brigitte d'un mystère qui m'effraya d'abord et puis me laissa dans l'inquiétude perpétuelle. Ainsi, plus j'allais, plus se développaient en moi, malgré tous mes efforts, les deux éléments du malheur que le passé m'avait légué. Tantôt une jalousie furieuse, pleine de reproches et d'injures. Tantôt une légèreté affectée. Une gaieté cruelle qui outrageait en plaisantant ce que j'avais moi-même de plus cher. Ainsi, Brigitte, se voyant traitée alternativement ou comme une fille entretenue ou comme une maîtresse infidèle, sombrait peu à peu dans une tristesse qui dévastait notre vie entière. « Allons, me disais-je enfin, cela est certain. Il n'y a absolument pas le moindre doute que nous ne pouvons plus vivre ensemble. » Je ne veux pas tuer cette femme. Ainsi, je n'ai plus qu'à la quitter. Voilà qui est fait. Je m'en irai ce soir. Voilà une bien belle journée, dis-je. Oui, répondit Brigitte. Et un beau soleil. Que rien n'effacera. Là. Et une heure après, une chaise de poste dépassait la barrière de Fontainebleau, m'emportant. Seul. Comment donner un nom à une chose sans nom? Étais-je bon ou étais-je méchant? Étais-je défiant ou étais-je fou? Il ne faut pas y réfléchir. Il faut aller. Cela était ainsi. Lorsqu'après de si longs ennuis, des chagrins si cuisants, tant d'irrésolution, une jeunesse si dissipée, je pouvais voir se lever sur moi un jour tranquille et pur. Lorsque ma vie, consacrée à un être adoré, pouvait se remplir d'une sève nouvelle, c'est à ce moment-là que tout s'abîme et s'évanouit devant moi. Et me voilà.
non plus avec des désirs vagues, mais avec des regrets réels. Non plus le cœur vide, mais dépeuplé.
France Culture et la Comédie Française vous ont présenté « La confession d'un enfant du siècle » d'Alfred de Musset, avec Nicolas Lormeau. Musique, Bertrand Maillot.